Bonsoir à tous et toutes et bienvenue à la Cale, rue Royer, amicale laïque du Cré de Roc, sur le quartier du même nom bien entendu. Bienvenue sur le 895 de Dio, déjà on vous précise que vous êtes sur Radio Dio à Saint-Étienne. Alors c'est une chose assez exceptionnelle que de réaliser des émissions en public. Je crois que pour le Grémos, c'est la première émission qui se déroule dans ces conditions. On a pour habitude de réaliser parfois des rencontres, des conférences, notamment les rencontres d'histoire ouvrière qu'organise régulièrement le Grémos. Mais je crois que c'est vraiment la première émission qui se déroule en public. Merci en tout cas d'être aussi nombreux et nombreuses. On rappelle que le Grémos, c'est une association, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui a pour activité, entre autres, celle radiophonique, et notamment d'animer une émission de radio mensuelle. C'est le troisième jeudi de chaque mois. Alors nous sommes mercredi 16 novembre, nous sommes demain jeudi 17 novembre, troisième jeudi de ce mois de novembre, et c'est donc, après cette émission qui est enregistrée ici en public, l'occasion de la retrouver demain. Ce sera donc en léger différé, mais demain, à partir de midi, il y aura la diffusion de cette émission que vous allez suivre d'ici un instant. Ce sera à midi et rediffusé à 19h et le lendemain, vendredi donc, à 8h. Cette émission est consacrée aux travailleurs algériens en région stéphanoise. 1944-1962 a été la période qui a été définie. Vous allez retrouver là l'ensemble des intervenants et intervenantes. On rappelle juste que cette émission et cet événement se déroulent dans le cadre d'un autre événement qui se tient actuellement, qui va se prolonger jusqu'au 13 décembre prochain, qui est la Biennale Trace, qui porte sur l'histoire, la mémoire et l'actualité des migrations, avec des centaines d'événements, je crois qu'on peut le dire ainsi, qui se déroulent partout en région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement sur le département de la Loire, avec bon nombre de rendez-vous d'ailleurs qui se déroulent là en cette mi-novembre. Cet événement-là radiophonique est organisé donc par le Grémos en partenariat avec l'amicale laïque du Cré de Roc que l'on remercie et qui nous accueille comme habitude chaleureusement, les archives municipales et métropolitaines de Saint-Étienne et donc Radio Dio qui également propose cette émission mensuelle. Voilà, merci à vous. On va donc consacrer un premier temps pour vous faire part un petit peu de l'organisation et du déroulé de ce rendez-vous. Un premier temps qui va être très radiophonique, c'est-à-dire qu'un temps d'interventions diverses sur la question énoncée. Et puis il y aura un deuxième temps au terme d'une heure environ, car c'est les horaires impartis en radio, qui laissera place davantage à la discussion et aux échanges, si vous le souhaitez, avec un micro qui pourra circuler en salle. Je laisse la parole de suite à celui qui fut président et qui, me le rappelle souvent, est également fondateur du Grémos. J'ai bien fait les choses. Bonsoir Jean-Michel Stenner.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Donc c'est un ex-président qui vous parle et qui vous reçoit et qui suis très content de voir que le public est nombreux ici ce soir dans ce quartier du Cré de Roc, un quartier populaire, prolétarien, même s'il en est parmi les nombreux quartiers du même genre à Saint-Étienne. Alors, l'émission aujourd'hui consacrée à la question des travailleurs algériens dans la région stéphanoise, dans la période de 44-62, c'est-à-dire la période qui précède l'indépendance, qui est marquée par d'abord la libération de l'occupation allemande avec les tragédies qu'elle a pu représenter en Algérie, notamment dans le Constantinois, et puis avec, dans une deuxième partie, avec la guerre d'Algérie proprement dite, qui a eu des répercussions importantes dans notre région, tout simplement parce que la population algérienne était d'un nombre assez conséquent. Alors, c'est pas une nouveauté, l'immigration algérienne. Je pense que Léla ou d'autres nous en parleront, puisque elle est déjà significative pendant la Première Guerre mondiale. Notamment, il y a pas mal de Kabyles qui sont présents dans les industries sidérurgiques de la région de Londen. Mais effectivement, au lendemain de la guerre et dans les années qui vont suivre, on a une nette augmentation de cette population. Alors officiellement, je donne quelques chiffres, mais je ne vais pas vous assommer. Officiellement, on recense en avril 1945, le chiffre est très bas, c'est un peu normal, puisque la guerre n'est pas terminée, 689 Algériens dans la Loire, et le chiffre va monter jusqu'à plus de 10 000 à la veille de l'indépendance. Mais on est déjà à 6 000 militants algériens, pardon, travailleurs algériens en 1954. Alors, pour parler de cette question, eh bien, on a donc invité d'abord Leila Ben-Sharif, spécialiste, s'il en est, de cette question dans la région stéphanoise, en temps auquel elle a consacré sa thèse de géographie. On a invité aussi le directeur des archives municipales qui ont consacré une exposition à ce sujet que vous pouvez voir aux archives municipales, donc 164 Courforiel, c'est bien ça,
c'est ça.
Donc juste à côté de l'école des mines. Et puis Antoine Vernet, donc qui est aussi membre du Grémos et qui a préparé un certain nombre d'aspects de cette question dont nous allons parler aujourd'hui, notamment sur le parcours d'Omar Areg. C'est bien ça. Bien, alors, on va peut-être commencer à donner la parole tout de suite à Antoine sur cette question d'Omar Areg. C'était ton objectif, c'était de retracer le parcours de ce militant.
Oui, donc bonjour à tous. C'est vrai qu'en commençant à m'intéresser... Pas directement à la question des Algériens dans la région stéphanoise, notamment autour des temps de la guerre d'Algérie. Y a un nom qui a fini par apparaître et qui m'a posé quelques questions, qui m'a interpellé et que je trouvais intéressant de passer par cette personne, par son parcours, par ses engagements, pour pouvoir de manière un peu plus large réfléchir à la question justement de ce qu'ont été les conditions de vie, d'existence, les enjeux autour de la vie des travailleuses, des travailleurs algériens dans la région stéphanoise, donc après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à l'indépendance au moins, et de trouver quelqu'un justement qui pouvait remplir plusieurs cases d'une certaine manière, quelqu'un qui a été ouvrier. Donc dans une région où l'emploi des Algériens a été quand même en grande partie autour justement des industries, bon en l'occurrence de la métallurgie, mais il aurait pu, si ça se trouve, être un mineur ou un ouvrier du bâtiment, et donc quelqu'un qui va avoir d'autres engagements associatifs, syndicaux, politiques très variés, et quelqu'un qui en même temps est assez singulier par la position qu'il va prendre et puis même par son parcours. Parce qu'au départ, on a quelqu'un dont le père était originaire donc d'Algérie, qui s'appelait, que je retrouve exactement le nom, je peux pas dire de bêtises, qui s'appelait Abdallah Ben Belkacem Areg, donc qui venait de Kabylie, qui était né vers 1885 et qui s'était engagé pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et qui était resté sous les drapeaux un peu plus longtemps, puisqu'il était dans l'armée d'occupation en Rhénanie. Et c'est là où il va rencontrer une infirmière allemande qui s'appelait Joséphine Kaiser, et dont ils vont tomber amoureux. Et puis ils vont vivre une vie ensemble. Ils vont avoir 8 enfants. 4 vont naître en Allemagne, et puis les 4 derniers vers Béjaïa. Et Omar Areg est le quatrième de la fratrie, et ça va être donc celui dont le destin va être peut-être le plus connu, avec sa petite sœur Zina aussi, dont on trouve pas mal d'informations sur sa vie, sur ses engagements là aussi. Et donc c'est une famille qui, comme je l'ai dit, retourne en Algérie après que le père Areg prenne sa retraite de militaire, mais il avait été gazé pendant la Première Guerre mondiale, et puis il va finalement décéder un peu prématurément des conséquences lointaines des gaz. Il va décéder en 42 à Sétif, et là les conditions vont devenir beaucoup plus dures. En plus, on est après l'opération Torch, avec l'occupation alliée en Algérie, bon, beaucoup de choses changent. Et voilà, pour des raisons économiques, une fois que la guerre va se terminer, l'Algérie ne va pas apparaître comme un lieu où rester, d'autant plus que la famille et Omar en particulier vont être marqués, traumatisés par les massacres de Sétif, où une partie de la famille a été témoin parmi les enfants. Donc Sétif, Guelma, Kerata, à l'occasion justement du 8 mai 45, hein, tout le tragique de ces événements, du jour où ils se déclenchent et des causes, voilà, pour manifestations un peu trop visibles de nationalisme algérien qui déclenche les hostilités. Et donc Omar Areg, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, n'avait pas pu aller jusqu'au bout de sa scolarité par rapport à ce que ses aînés avaient pu faire. Et dès 1945, en fait, il va partir en France. Il va arriver donc dans la vallée de l'Onden et il va s'embaucher aux aciéries et forges de Firminy, où il va travailler. Il va travailler notamment donc dans des ateliers à chaud, avec des conditions de travail difficiles. Et en s'installant ici, il va non seulement pouvoir faciliter la venue de ses frères et sœurs cadets, également de sa mère, et il va aussi trouver sa future femme, qui est originaire de la région, qui s'appelle Marthe Crouzet, qui a un an de moins que lui. Areg est né en 1927. Donc sa future femme est ouvrière, et même si au départ c'est compliqué de faire accepter à la belle-mère le fait que sa fille fréquente un arabe, voilà, ça va se terminer quand même lorsque Marthe Crouzet sera complètement, sera majeure, tout simplement, et donc les deux vont se marier en août 1950 à Unieux. Et ils vont habiter à Unieux, au 35 rue Jean Jaurès, donc juste derrière les aciéries, vraiment avec le décor industriel s'il en est, où ils vont avoir deux enfants qui au départ auront un nom chrétien, un nom français, donc Christian et Alain, qui naissent en 51 et 52. Le mariage a été célébré par un prêtre d'Unieux qui s'appelle Jean Courbon, qui va avoir une importance par la suite aussi, comme pas mal de prêtres à cette époque. Et donc, c'est, voilà, la famille s'implante, le reste de la famille Areg s'implante dans un appartement à Saint-Paul-en-Cornillon. Donc, ils trouvent du travail dans la région, parfois jusque dans la vallée du Gier. La petite sœur Zina le trouve aussi aux aciéries de Firminy. Donc, vraiment, le gros employeur de l'Onden, derrière, à côté des mines à Roche-la-Molière, ou au Chambon-Feugerolles et la Ricamari, avec beaucoup d'ateliers et une entreprise qui connaît en 53-54 une fusion, une concentration, et donc des usines qui intègrent ce qui devient la compagnie des ateliers et forges de la Loire, donc le principal employeur de la sidérurgie du département de la Loire, de la région de Saint-Étienne, avec une politique sociale relativement développée, notamment par celui qui était le patron de Firminy, le président de Firminy, Marcel Macot, mais donc des usines où la concentration fait qu'on réorganise beaucoup de choses, les mains d'œuvre bougent pas mal, des ateliers qui ferment, et il y a quand même toujours une main d'œuvre, notamment donc nord-africaine, maghrébine, très importante, ce qui va avoir pas mal de conséquences là aussi. Il faut imaginer, par exemple, j'ai pas de chiffre avant, mais en 1960, on a quand même à peu près 370 maghrébins qui travaillent dans l'usine de Londen, ce qui fait à peu près 6% de l'effectif. Bon, c'est pas spectaculaire, mais c'est quand même remarquable pour une usine qui compte plusieurs milliers d'ouvriers. Et donc, ils sont surtout en plus dans des ateliers à chaud, particulièrement les plus pénibles. Et pour finir sur Omar, sur la fin des années 40, début des années 50, c'est quelqu'un qui va s'engager, toujours traumatisé un peu par les massacres de Sétif, il va s'engager dans le parti de Messaliadj, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD. Il va intégrer à Firminy donc la cellule à partir de 1947. Pardon, un peu plus tard, il va devenir intégré, je pense, en 47, j'ai plus exactement la chronologie, mais il va grimper, il va passer de la cellule au groupe, et puis même donc à la section, et il deviendra même un des membres de la CASMA à Saint-Étienne du MTLD en 1950, et lui dit qu'il va rester au MTLD jusqu'en 1952, mais peut-être jusqu'en 54, jusqu'à l'interdiction du parti. Bon, ça, il n'y a pas encore de... On peut pas encore trancher complètement sur le sujet. Mais voilà, c'est quelqu'un qui s'implante, qui commence à prendre des responsabilités, également syndicales. Il va être délégué syndical. Au départ, il était à CGT, ensuite il va passer à la CFTC, et puis peut-être même, il faudrait encore trouver des archives là-dessus, mais qu'il aurait été impliqué notamment sur les campagnes électorales d'Eugène Claudius Petit à Firminy, avec les liens par les réseaux catholiques. Bon, voilà, encore à creuser sur la question.
On a une image, une idée un petit peu de l'importance du MTLD à travers une photographie qui est conservée aux archives municipales d'une manifestation du 1er mai 1950 où ils réclament la libération de Messaliadj et ils occupent tout le perron de l'hôtel de ville de Saint-Étienne. C'est une photo qui est tout à fait qui montre bien effectivement l'importance de l'écho qu'a rencontré ce parti héritier du Parti du peuple algérien fondé par Messaliadj déjà avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors on va peut-être demander à Léla maintenant de nous faire un petit peu un topo sur les conditions de vie, conditions d'hébergement, vie quotidienne, peut-être l'implantation dans la région de la population algérienne plus particulièrement.
Oui.
Dans le micro.
Oui, merci pour cette invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Et il y a une très jolie table ronde ici, avec des personnes clés, puisque ce sont ces personnes qui continuent à alimenter le travail de recherche, le travail de mémoire sur l'immigration maghrébine, l'immigration algérienne notamment, enfin l'immigration coloniale. Et voilà, ce n'est pas une formule de politesse, c'est très sincère. Vous faites partie de ceux qui nous accompagnent, qui permettent d'accompagner les chercheurs, les jeunes chercheurs, les militants associatifs à une meilleure connaissance de cette histoire, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à écrire. Alors, c'est une question extrêmement complexe, Jean-Michel, que tu me poses, et il faut que je sois hyper synthétique. Alors, en 3-4 mots comme ça, 3-4 points rapides, d'abord dire, et merci, tu as fait une très bonne présentation, qui ne nous oblige pas à aller à présenter les effectifs, l'évolution des effectifs de l'immigration maghrébine et plus spécifiquement algérienne dès la Première Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Mais quand même, tu as donné des chiffres clés, 10 000 à la fin de la guerre d'Algérie, 10 000 Algériens dans le département de la Loire, à peu près 5 000 sur Saint-Étienne, pour les populations que l'on arrive à recenser, parce qu'il y a une vraie question de problématique qui concerne le recensement, j'aimerais juste en dire deux mots. 122 familles algériennes dénombrées dans le département de la Loire. À la fin de la guerre d'Algérie, elles sont 1000 dans le département de la Loire. Ça veut dire qu'il y a une progression importante de l'immigration algérienne. Et puis, dans cette même période de la guerre d'Algérie, commence à s'organiser, se constituer une immigration familiale et qui explique notamment pourquoi aussi les effectifs augmentent. Et puis aussi, le premier baby-boom de l'immigration algérienne, dont on a quelques représentants ici, ceux qui avaient 5 ans pendant la guerre d'Algérie et nés à Saint-Étienne, n'est-ce pas, à la Loire ? Enfin, je ne sais pas si tu avais 5 ans, mais bon. Bref, le premier baby-boom de l'immigration algérienne, c'est fin des années 50, et puis après, les années 60, 70, etc. Je reviens à la question du recensement parce qu'elle est primordiale. Quiconque travaille sur une histoire ou une géohistoire, une sociologie, bref, de l'immigration issue des colonies, donc l'immigration coloniale, va être confronté au problème de la taxonomie, c'est-à-dire de l'identification et du nom que l'on désigne pour identifier les populations concernées. On a la chance, quand on va dans des archives municipales, par exemple, de pouvoir consulter les registres de recensement de la population, dénomination de la population, 1911, ceux que j'ai consultés, 16, 21, 26, 31, 36, 46, 41, je crois qu'il n'existe pas, 54. Et là, état nominatif des habitants de la ville de Saint-Étienne par rue. Hein. Et puis, en face, à chaque fois, on dit, bon, la profession, et surtout, en fait, c'est l'ancêtre du recensement de l'INSEE. Donc, beaucoup d'indications et premier problème de taxonomie, c'est quand tu veux identifier, recenser, comptabiliser, hein, et ben, les populations issues des colonies, donc principalement algériennes et marocaines aussi, elle est spécifique dans la Loire, eh bien on va être confronté donc au problème de la désignation de la nationalité de l'individu. Tantôt il est indigène, tantôt il est africain, tantôt il est noir. Je parle des recensements qui remontent avant l'entre-deux-guerres, on va dire. Tantôt ils sont français, d'Algérie, etc. Donc, c'est toujours très difficile de recenser. Donc, quand on donne des chiffres, même lorsque le recensement s'affine et que le statut des Algériens, notamment, va évoluer à partir de 1944, en devenant, après, donc français musulmans, même quand le statut administratif qui définit la nationalité de l'individu, eh bien, même là, les chiffres que l'on donne restent toujours des estimations. Donc, le problème, la taxonomie, il est toujours important. Pour moi, c'est toujours un préalable que je formule pour dire, attention, on est dans des estimations. Après, rien ne nous empêche, bien évidemment, de répondre aux questions clés pour dire aussi que on a la chance, quand on travaille sur l'immigration en situation coloniale, eh ben, d'avoir accès à des sources d'archives extraordinaires. Alors d'abord des archives orales, beaucoup de ces hommes, de ces femmes sont décédés, hein, pour ceux qui sont arrivés même un peu avant la guerre d'Algérie, mais on a aussi des sources d'archives inédites qui tient à la spécificité de l'histoire de l'immigration coloniale et donc maghrébine, qu'elle relève des Algériens, hein, qui étaient donc une colonie, l'Algérie, j'oublie pas les deux protectorats qui étaient le Maroc et la Tunisie. Et donc il y a une histoire, et c'est singulier pour tous ceux qui travaillent sur l'histoire des immigrations en France, ceux qui s'intéressent tout particulièrement à l'histoire de l'immigration coloniale vont rencontrer une histoire spécifique, singulière dans l'histoire de l'immigration en France, puisque l'immigration coloniale est celle qui a relevé d'un dispositif d'encadrement public, donc institutionnel, mis en place, défini par la puissance publique, un dispositif d'encadrement spécifique qui est basé sur deux objectifs, assister et surveiller. Et quand je dis surveiller, c'est aussi contrôler. Si bien que quand on va se plonger dans les archives publiques, municipales, départementales, nationales, et qu'on veut faire une focale sur l'histoire de l'immigration maghrébine dans l'entre-deux-guerres, mais même jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, on va travailler sur des sources d'archives extraordinaires. Alors, bien sûr que quand on se prête à une analyse discursive de ces archives, c'est la puissance publique qui s'exprime. Et je ne peux pas dire deux mots de la vie des travailleurs algériens à Saint-Étienne ou dans la Loire sans faire écho à ce dispositif d'encadrement qui s'inspire de la politique d'encadrement mise en place par l'ordre colonial à destination des indigènes. C'est-à-dire qu'au moment où on crée en 1841 en Algérie, on est en pleine conquête coloniale, au moment où se créent les bureaux des affaires arabes en 1841, en Algérie, au fil du temps, et dès lors que l'immigration algérienne, elle traverse la Méditerranée et elle s'implante en France, comme l'a très bien rappelé Jean-Michel, elle est présente en réalité dès la Première Guerre mondiale, un petit peu avant, mais de façon un peu anecdotique, mais c'est surtout l'arrivée des travailleurs coloniaux et des combattants coloniaux qui font, qui marque la première présence algérienne, enfin plus massivement, entre guillemets, la première présence algérienne en France. Donc juste vous dire, puisqu'on est, il est question de Saint-Étienne et du département de la Loire, c'est que cet espace d'encadrement institutionnel spécifiquement dédié à la surveillance et à l'assistance des immigrés, on dira, des migrants maghrébins, elle se traduit de cette façon-là. 1916, on crée à Saint-Étienne le Bureau des Affaires Indigènes. Ayez bien en tête qu'on s'inspire, on reproduit un modèle, l'idéologie coloniale. Hein. On le transporte de l'autre côté de la Méditerranée. Création en 1928 du service des affaires indigènes nord-africaines. C'était dans le quartier de Saint-François, rue de Saint-Chamond, actuelle rue des Alliés. Service des affaires indigènes nord-africaine, 1928, qui est remplacé en 1943 par le Bureau des Affaires musulmanes nord-africaines. Il ne vous aura pas échappé le terme musulman, preuve que la laïcité, la loi de la belle loi de 1905 sur la laïcité, elle excluait les populations de confession musulmane en Algérie notamment. Les juifs relevait de cette loi de 1905 et non pas les indigènes musulmans, à tel point que dans l'histoire du mouvement nationaliste algérien, une des premières revendications était de dire « nous voulons relever de la loi 1905 ». Mais il y a une pensée, un impensé colonial qui est celui de dire in fine que les musulmans ne sont pas intégrables et assimilables, pour le dire vite, parce que c'est un peu plus complexe que ça. 1943, donc création du BA, du Bureau des Affaires musulmanes nord-africaines, création aussi du contrôle social de la main-d'œuvre nord-africaine en 1939, je parle toujours de Saint-Étienne, hein. Création après, en 1958, c'est-à-dire dans la violence de la guerre d'Algérie, c'est la création du service des affaires musulmanes et de l'action sociale. Deux autres exemples qui est toujours important de rappeler, c'est la création en 1957 de la Sonacotral qui a donné après 1962 la Sonacotra. Et Sonacotral, Société nationale de construction pour les travailleurs algériens. Et puis un autre ancêtre qu'il faut pas oublier de citer, l'ancêtre de l'accès aujourd'hui, ex-facilde, ex-face, et qui en 1958 était le fonds d'action sociale pour les travailleurs musulmans d'Algérie en métropole et pour leurs familles. Cette ribambelle d'acteurs d'espace d'encadrement institutionnel, eh ben, elle permet aux chercheurs d'aller glaner des informations, multitude d'enquêtes sur l'état, l'état psychologique des personnes, sur leur lieu de vie, sur les bidonvilles, sur les garnis, sur où sont-ils logés, où travaillent-ils, que font-ils, etc., etc. Donc on a ces supports d'archives, du coup, ce sont des archives publiques et la plupart de ces bureaux, vous pouvez consulter toutes leurs archives puisqu'elles relevaient du service du cabinet des services des affaires algériennes, notamment pendant le temps de la guerre d'Algérie. Donc tout cela pour vous dire que ce que je vous raconte sur la vie de ces Algériens, eh ben je l'ai puisé principalement dans des rapports d'enquête, des deux gros rapports de 1948 et 1958, où déjà se pose la problématique notamment du logement à tel point que quand vous passionnez de la presse locale, le Progrès, c'est terminé, il faut que j'arrête. En 1954, il y a une fois par semaine des articles de presse, alors sur la guerre d'Algérie, c'est toujours fait divers, hein, ok, mais des articles de presse qui construisent le problème nord-africain. C'est pas nous qui l'inventons, c'est déjà dans le discours, le problème nord-africain dans le logement, dans la santé, dans le travail, dans la guerre, il est identifié. Donc vous avez des articles qui identifient le problème nord-africain. comme des décennies plus tard, on a pu lire dans certaines presses le problème Rome, voilà, ou le problème musulman, etc. Donc, c'est très important de signifier que mes sources d'archives, nos sources d'archives, c'est la presse, mais c'est surtout, c'est elle qui traduit in fine ce que disent les, ce que produisent les enquêtes de l'administration publique. Autre élément important, après 1944, dans les recensements de la population, les Algériens sont français musulmans. Eh bien, on distingue, et là, c'est important de le rappeler, on va distinguer les Français de souche nord-africaine des Français de souche métropolitaine dès les années 40. Et ça, c'est l'ancêtre de l'INSEE. La statistique publique, elle les désigne ainsi. Cela veut dire, au passage, parce que la question mémoriale de l'histoire, elle nous permet d'abord de nous confronter au présent et d'interroger le présent. C'est pas Marine Le Pen qui a inventé la souche. C'est la statistique publique. Et c'est ni les indigènes de la République qui ont inventé la souche. C'est bien la statistique publique puisqu'il s'agit en permanence de distinguer le français de souche nord-africaine du français de souche métropolitaine. Donc, on est en permanence pris dans des lectures, recensements, etc., d'enquêtes où on doit à chaque fois extirper, essayer de traduire au mieux une réalité. Et peut-être pour finir, parce que le problème numéro un, effectivement, c'est le logement, la majorité des Algériens, dans la période qui nous est proposée d'étudier aujourd'hui, elle est hébergée par ses propres moyens, comme le disait l'enquête de 48 et 58. Cela ne veut pas dire que, comme tu y faisais référence tout à l'heure, l'industrie de la métallurgie et de la sidérurgie, elle a organisé des cantonnements, des espaces d'habitation dédiés aux ouvriers, aux prolétaires urbains. Et les Algériens vont pouvoir aussi bénéficier dans certaines villes du département, y compris à Saint-Thé, mais surtout dans l'agglo stéphanoise, elles vont pouvoir bénéficier de ce type de logement, mais ça restera insuffisant. En précisant que la mine, les compagnies des mines, elles vont organiser l'habitat des ouvriers de toute nationalité européenne et extra-européenne. Mais il y a un manque cruel de logements. Et c'est vrai que la majorité des Algériens, dans la période 40-50 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, elles s'autologent. Alors, ce sont les fameux garnis. Et quand on lit quand on lit dans les enquêtes de 58, c'est très intéressant. En plus, c'est signé par le préfet et une enquête publique où on parle du nombre de gourbis, de gens qui viennent du bled. C'est-à-dire qu'on reprend les termes, les mots du colonisé et ces lectures, ces documents très publics, institutionnels, administratifs, ne sont pas lus par les Algériens eux-mêmes. En tout cas, on sait combien il y a de gourbis, donc effectivement, c'est plutôt c'est de l'auto-logement, on s'auto-héberge, ce sont les garnis de la rue de la ville, comme ils font les 3-8, ils se partagent une piole, comme les Algériens que j'avais pu interviewer, qui me disaient, donc mon père le premier, rue de la ville, premier appartement, ils sont à la mine, ils font les 3-8, ou ils sont à la CAFL, dans la métallurgie, sidérurgie, et ils se partagent 1, 2, 3 couches, 3 lits, et voilà, donc des garnis, du cantonnement, et puis au fil du temps, c'est-à-dire au fil de l'accentuation des flux migratoires en provenance d'Algérie, eh bien, constitution aussi très vite de bidonville que l'on va résorber à Saint-Étienne seulement en 1968 et qui va donner lieu, le dernier bidonville à Reveux, à Méon, et qui va donner lieu à la création de la cité de Reveux. Donc, problème numéro un, c'est le logement. Question travail, c'est d'abord la mine, le premier pourvoyeur de la main d'œuvre. étrangère et algérienne spécifiquement, l'industrie sidérurgie, métallurgie, voilà, à eux deux, ce sont les deux principaux foyers d'accueil de la main-d'œuvre. Et puis, la mine, c'est important, au fur et à mesure que la mine, eh bien, commence à, l'industrie minière se restructure, etc. On va voir au milieu, à partir des années 55, une prédominance de la main-d'œuvre algérienne dans la sidérurgie et de la métallurgie. Peut-être, faut que je me taise là.
On va te laisser souffler un petit peu parce que je vais demander à Pierre-Régis peut-être de faire un point sur les archives justement.
C'est ça. Donc comme il y a eu beaucoup de choses de dites sur les archives, en tant qu'archiviste je me permets de faire un petit retour aux sources. Beaucoup de choses ont été dites et très bien dites sur les archives, notamment préfectorales que vous avez pu consulter pour parler de cette question du logement. Mais deux sources d'archives aussi qui permettent de se faire une idée un peu précise des conditions de logement des Algériens à Saint-Étienne. Tout d'abord, les fonds photographiques que l'on conserve, notamment aux archives municipales, donc le fonds Léon Leponce, que tu connais particulièrement bien, sur lesquels on peut avoir des photographies, notamment du bidonville de Méon dans les années 50, et qui sont parlantes d'elles-mêmes. Un deuxième fonds d'archives dans lequel il est utile de chercher pour se faire une idée aussi des conditions de logement des Algériens à Saint-Étienne. Donc c'est une enquête sociale, Caroline, tu me compléteras si nécessaire. En 1955, les services sociaux de la ville commandent une enquête pour savoir dans quelles conditions sont logés les Algériens à Saint-Étienne. Et donc c'est sur le mode du recensement. Les agents des services sociaux se rendent dans le quartier de Tarentès pour interroger les Algériens et savoir dans quelles conditions est-ce qu'ils sont logés. Donc on a à la fois les fiches individuelles qui permettent de savoir qui habitait où et dans quelles conditions ils étaient logés, et ça donne lieu à un rapport qui permet aussi de se faire une idée précise de la situation. Donc il y a pas mal finalement d'archives qui permettent de traiter cette question, et aussi donc sur les témoignages oraux, mais vous l'avez déjà cité.
Alors, conditions de travail, conditions de logement, conditions de statut citoyen, pas citoyen, c'est évidemment la toile de fond de la lutte des Algériens pour leur indépendance. Alors, on a dit, la figure de Mess Ali Hadj domine ce mouvement depuis les années 30, depuis le début des années 30. Il a fondé l'Étoile nord-africaine, puis le Parti du peuple algérien, puis différentes organisations qui ont toutes été interdites, puis le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Et de ce MTLD est né finalement, à travers des avatars que je ne vais pas détailler ici, le FLN qui déclenche l'insurrection en 1954. Alors l'insurrection, c'est évidemment sur le territoire algérien qu'elle s'étend en 54-55, mais elle va très vite avoir une répercussion dans les territoires de ce qu'on appelle la métropole, où se trouvent des populations algériennes importantes, et notamment dans la région stéphanoise. Alors, il y a la lutte qui est menée contre l'armée française en Algérie, mais dans le territoire stéphanois ou lyonnais ou parisien, c'est d'abord une lutte entre les partisans de Mess Ali Hadj et les partisans du FLN, qui avaient choisi une voie plutôt insurrectionnelle, qui va marquer le début qui va marquer les esprits, notamment algériens bien sûr, mais aussi des esprits de la population stéphanoise, à travers des affaires, des règlements de compte et des fusillades. Peut-être, Leïla, on peut te redonner la parole.
Oui, alors, spécificité dans l'histoire de l'immigration, dans l'histoire de la guerre d'Algérie en France. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux ont été publiés. Ça veut dire que les historiens ils font leur boulot, et depuis, même avant dès les années 50, et les historiens des deux rives. Et puis il y a une jeune génération de chercheurs qui fait un boulot remarquable. Ceci pour dire qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de créer une nouvelle commission scientifique d'historiens. Les historiens bossent, et les bibliothèques se remplissent. Pardon, je ferme la parenthèse. Après, il y a encore beaucoup à écrire. Il y a une spécificité dans la Loire, et l'agglomération stéphanoise, c'est la prédominance du MNA. Et donc, et cette fameuse guerre, enfin, terrible guerre fratricide, c'est quand même trois mouvements nationaux algériens. Là, et d'ailleurs, dans l'agglomération stéphanoise, avec le fief, c'est Saint-Chamond. Le MNA, très, très, très présent. Et la fin du... Je crois que c'est à partir des années... Eh ben, c'est en 57 que ce qu'on... que le FLN l'emporte dans l'agglomération stéphanoise. Mais le mouvement MNA, qui réunit bien sûr des messalistes, est très représenté. Il va y avoir des morts, des règlements de compte, etc. Ne pas oublier qu'à niveau national, quand on fait l'histoire de la guerre d'Algérie en France, c'est 3000 morts, la guerre fratricide entre comment 4000, je disais, moi, enfin, oui, j'ai même écrit 5000, 4500 morts, c'est énorme, sur une période très courte. Voilà. Ils sont tous les deux, à noter tous les deux, les MNA comme le FLN sont pour l'indépendance de l'Algérie. C'est la voie qui est différente. Et puis, je vous invite à lire les travaux de Daho Djerbal, qui vient l'historien algérien, qui sera à Saint-Étienne la semaine prochaine, et qui est celui qui a écrit ce magnifique bouquin qui s'appelle « L'histoire de l'organisation spéciale de la Fédération de France du FLN » et qui a rencontré des membres de la famille Hareg et qui a rencontré d'autres acteurs militants pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, après avoir tendu son micro pendant 20 ans et auprès d'Algériens et d'Algériennes en France, qui étaient des militants pour l'indépendance algérienne, eh bien, après 20 ans, il a publié ce chef-d'œuvre. Je l'ai lu comme un livre d'aventure en plus, je ne devrais pas le dire comme ça, mais vraiment, il a rencontré Zina Hareg. Je ne sais pas s'il a rencontré Omar Hareg, parce qu'il a démarré tout son travail de recueil de témoignages à partir des années 80, quand il a récupéré 4 milliards de bandes sonores, et il en a fait un bouquin, et il vient la semaine prochaine à Saint-Étienne, dans le cadre du colloque Guerre d'Algérie. Je voudrais juste dire avant la question d'organisation du mouvement nationaliste algérien et dans la violence de ses actions dans la violence de la guerre d'Algérie, mais mes collègues ils pourront très bien dire plein de choses. J'ai en tête la très belle, les magnifiques photographies de Léon Le Ponce. Et il faut aller au moins, s'il y a une raison pour aller aux archives municipales qui ont une belle expo à voir en ce moment, et c'est pas pour leur faire plaisir, mais aller découvrir le fond Léon Le Ponce qui a croqué, c'était un photographe, qui a croqué les milieux populaires comme jamais. Et c'est lui qui nous a permis de considérer, enfin de mettre en image un temps inédit. Dans les années 50, il y a eu plusieurs 1er mai, défilés de 1er mai, 51, 52, 53. J'avais interviewé des vieux immigrés algériens qui m'avaient dit « il y a eu une manif, 1er mai ». Ils défilent avec les drapeaux algériens, on est en 51, 52, 53, ils défilent à part, ils sont dans le défilé du classique du 1er mai, mais... ils s'engueulent un peu avec le PC, la CGT locale, qui disent, on veut défiler avec le drapeau. Et il y a une superbe photo qui est, que vous racontiez. Ils sont sur les marches de l'hôtel de ville et ils demandent l'indépendance de l'Algérie, la libération des prisonniers algériens, bien sûr, Messali Hadj, qui est en résidence surveillée, et surtout, un propos anti-impérialiste et colonialiste, parce qu'il demande, il y a des pancartes sur lesquelles est écrit frères maghrébins, que ce soit les Algériens, Marocains, Tunisiens, ils sont aussi concernés par le système d'exploitation et de domination coloniale, mais aussi avec un propos sur l'Indochine qui commence à, on n'est pas encore en 54, mais il y a un vrai propos, je dirais, de la part de ces militants qui sont des paysans, ce sont des ouvriers, comme le disait très bien Antoine, ils sont paysans pour la plupart, et ce ne sont pas les cadres qui ont organisé le FLN en Algérie, ils sont analphabètes, pour la plupart ces hommes dont nous parlons, et qui organise un mouvement nationaliste qui va ensuite prôner l'indépendance. Preuve en est, c'est qu'en 41 est créé, et ça va t'intéresser Antoine, en 1941, en 41 quand même, il est créé pour la première fois une association autonome de maghrébins, algériens et tunisiens, dont un sera ministre du Travail après l'indépendance en tunisien, ministre du Travail tunisien, après l'indépendance de la Tunisie en 56. Et en 41, donc, est créé, donc, trois Algériens et un Tunisien créent à Saint-Étienne l'association d'entraide nord-africaine pour accompagner aussi et puis commencer à diffuser les idées nationalistes. On est en 41. En 41, un des membres, alors certains de ces membres, j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer monsieur Imoun Amar. Il est décédé. Il a été longtemps travailleur à la CAF. Il était mineur. Il est le premier Algérien à ma connaissance qui est arrivé en 1937 à Saint-Étienne et qui était lettré. Il voulait, rêvait d'être un peu comme dans les romans de Mouloud Bamri ou Mouloud Feraoun. Surtout, il voulait être instituteur en Algérie. Il a eu une maladie des yeux et il voulait être instite. Mais sa maladie ne lui empêchait. Et il avait eu le certificat d'études. Elle est arrivée en 37 à Saint-Thé. Il travaillait à la mine et il était écrivain public à la Grand Poste. Parce qu'il savait lire et écrire. Et ben, je peux vous dire qu'il en a lu et il en a écrit des lettres pour les familles du bled. Et cet homme, quand je l'ai rencontré dans les années 90, il avait quelques 80 et quelques années, il a été le fondateur avec d'autres et d'autres d'autres hommes de cette association d'entraide nord-africaine. Et pendant sous Vichy, ils ont aidé des juifs de Saint-Étienne. Par exemple, il leur faisait des fausses cartes de travailleurs nord-africains, d'indigènes, parce qu'il valait mieux être indigène nord-africain, peut-être que juif. Et comme me le disait assez crûment et clairement Imoun, dans les entretiens, il disait, au moins, si on leur demandait de baisser le pantalon, ils auraient vu qu'ils étaient circoncis comme n'importe quel nord-africain. Et cet homme, Imoun Amar, il est mort à Saint-Étienne, il mériterait une rue et surtout trois pages sur le métron. Et cet homme donc a créé avec le neveu, avec l'oncle Hadj Belkacem Sayad, qui est ni plus ni moins que l'oncle du grand sociologue Abdelmalek Sayad. Et donc c'est Imoun Amar, Hadj Belkacem Sayad, qui crée en 41 l'association d'entraide nord-africaine. Et de cette association vont naître d'autres petits. Alors ils sont hyper fliqués, surveillés dans les renseignements généraux, parce qu'on les accuse d'être des séparatistes. Même chose, le séparatisme, il a le terme, il a une histoire. Et donc on retrouve Omar Hareg aussi en 52. Il crée aussi des associations de boy scouts. Et en fait, c'est toute là, on dirait la propagande, mais c'est toute la pensée, le mouvement nationaliste qui se crée aussi à travers des équipes de sport, équipes de foot. Et Omar Hareg, il fait partie du créateur de, là, en 52, du Racing Club nord-africain du Chambon-Faugerolles. Et il y a plein de militants nationalistes, alors ils sont tous fliqués. Du coup, on peut trouver leurs traces dans les RG. Et donc, il y a ces hommes-là qui, dès 40, dès le début des années 40, eh bien, on construit, je dirais, les fondements ou les prémices d'un mouvement nationaliste algérien et qui, le MTLD, le PPA, bien sûr, le MNA, le FLN. Donc, pour comprendre l'histoire de ce mouvement nationaliste algérien dans la Loire, eh bien, il faut remonter bien avant la déclaration. Et puis, dès l'entre-deux-guerres, ils ont connaissance de l'étoile nord-africaine, mais et qui dissoutent, qui se remontent, qui dissoutent, bref. Et c'est vraiment au début des années 40 que naît ce mouvement nationaliste.
Oui, alors, tu nous as merveilleusement décrit à travers ces figures, notamment celle de cet instituteur qui a l'air d'être très cher à ton cœur. l'éclosion de ce mouvement indépendantiste, même si moi je pense que dès la conquête, il y avait un refus de la soumission. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les historiens montrent bien que ce qu'on nous a appris, enfin ce qu'on a appris à ma génération, moi, Bugeaud arrive, met sa casquette et les Algériens se mettent à genoux, c'était totalement évidemment illusoire, puisque même sous le Second Empire, début de la Troisième République, il y a toujours des mouvements. Donc, mais la véritable insurrection qui va déboucher sur l'indépendance, c'est celle de 54 et qui va conduire donc à cette guerre d'Algérie. Et dans le cadre stéphanois, finalement, Omar Harek, si j'ai bien entendu ce qu'il vient de dire Leila, c'est un peu un héritier de cet instituteur. Et puis cet engagement qu'il a aussi dans le sport, ça va le conduire à la lutte pour l'indépendance. Alors, tu vas nous retracer la suite de son parcours, Antoine ?
Oui, ce qui était intéressant en plus, ça permet de vraiment comprendre aussi la spécificité de l'ensemble du mouvement indépendantiste. C'est une volonté de plus en plus affirmée, de plus en plus farouche, de l'auto-organisation et de ne pas dépendre, de ne pas être patronné par les grandes institutions, les syndicats, les partis politiques métropolitains, et qui fait que même si leur concours peut être utile, leurs méthodes peuvent être une ressource précieuse, il y a forcément un moment où il faut se démarquer.
Ça va créer certaines tensions.
Oui, oui, d'autant plus que bon, le Parti communiste dès son origine et la CGT alignée sur le Parti communiste ont vraiment pour ambition de prendre en charge intégralement la question des travailleurs maghrébins immigrés en France, et que très rapidement, en fait, il y a très peu de syndicalisation des travailleurs nord-africains, notamment dans la région stéphanoise, même si effectivement Belkacem Sayad est un de ses représentants, de ceux qui ont la double casquette, d'un côté effectivement la CGT et de l'autre au moins un temps le MTLD notamment, et Omar Harek de la même manière. Donc il va être quelque temps à la CGT, même si il va aussi assez rapidement s'en détourner, donc comme je disais, à la CFTC, et c'est sous l'étiquette CFTC qu'il est élu délégué syndical à l'usine de Londen. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au départ, donc, c'est quelqu'un qui va être connu par son engagement syndical et associatif, puisque finalement, le fait qu'il soit membre du MTLD, c'est quasiment à la dissolution du MTLD que ça apparaît dans les sources, a priori. Et donc, il est aussi à l'origine de la fondation à Firmini, d'une commission des travailleurs nord-africains qui sera liée un peu à l'action du bureau d'aide aux nord-africains de Firmini, et qui lui permettra aussi d'avoir un poids, d'avoir une légitimité. Et il faut imaginer que Harek, donc, qui est métisse, qui est lettré, qui visiblement a une résolution assez importante et une force de conviction remarquable, en fait il va profiter de ses mandats syndicaux au départ. Ça lui permet de faire la tournée des popotes dans les ateliers, dans les cantonnements, où beaucoup d'ouvriers, soit célibataires, soit venus seuls en métropole, sont présents. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus attirer l'attention, d'autant plus que il est susceptible de distribuer des tracts, d'organiser quelques grèves. Et il y a beaucoup, en fait, de mouvements de grève, de débrayage, qui sont très liés à l'histoire internationale. En fait, il y a toujours un écho en France, dans les usines ou dans les mines, des événements internationaux, que ce soit un anniversaire, que ce soit par exemple en 57, quand la France sera passée sur le grill à l'ONU sur la question algérienne. Voilà, il y a toujours un écho symbolique, au moins de grève d'une heure ou de grève d'une journée qui se mettent en place. Et donc cette activité, elle commence à agacer pas mal, au point qu'il y aura une première arrestation importante qui aura lieu en septembre 55 et qui qui va être un peu tragique pour la vie d'Omar Harek, parce que il aurait pu simplement être emprisonné quelques jours, passer au tribunal et puis s'en tirer avec éventuellement 1 à 4 mois de prison pour entrave à la liberté du travail, comme ça se faisait beaucoup. Mais en fait, les dispositions législatives et réglementaires vont faire qu'il va se retrouver interné en Algérie, un pays dans lequel il n'avait pas mis les pieds depuis très longtemps, et il va se retrouver enfermé d'abord à Lodi, puis à Berouaga, pendant à peu près 3 mois. Et c'est vraiment une épreuve qui, a priori, va changer sa vie de manière importante, même s'il fait partie de ceux qui s'en sortent le mieux, puisqu'il sort. Il sort assez rapidement, sans même être condamné. C'est tout le côté tragique des internements administratifs, des décisions administratives où il n'y a pas besoin de justice pour mettre les gens derrière des murs. Et il y a un témoignage écrit d'Omar Harek qui est dans les archives de Force ouvrière, l'UD Force ouvrière aux archives départementales de la Loire. Ce qui traduit aussi que même s'il y a une méfiance vis-à-vis des institutions syndicales que le MNA et le FLN ont particulièrement renforcé à partir de 55-56, on a quand même des syndicats, FO, la CFTC, le Syndicat national des instituteurs, la FEN, et puis même la CNT locale, qui sont dans des comités intersyndicaux qui soutiennent. Et ça explique aussi pourquoi le cas de l'arrestation et de l'internement administratif d'Omar Harek a pu intéresser. Et donc c'est un témoignage qui on n'a pas vraiment le temps de le lire, il est beaucoup trop long, mais qui permet de comprendre un petit peu comment quelqu'un qui était un indépendantiste, mais qui restait dans des formes de mobilisation assez classiques, comment probablement en fait il revient militant du FLN d'Algérie sans que personne ne l'ait compris immédiatement. Il va falloir attendre mars, donc il est libéré en décembre, je crois, 55, il faut attendre mars 56 pour que l'ERG commence à se poser la question de est-ce qu'il est passé au FLN ou pas, et la suite va finir de confirmer la chose, à force de faire la tournée des cantonnements, à force d'organiser des grèves, à force d'être la figure la plus visible. Donc en fait, on a quelqu'un qui est passé dans l'OPA, dans l'organisation politico-administrative du FLN, au moins jusqu'au début de l'année 57, et qui vraiment organise la mobilisation dans les usines, mais quelqu'un qui va finir par changer de méthode, qui va passer dans l'OS, dans l'organisation spéciale, et là avec des méthodes et des conséquences beaucoup plus tragiques, avec les règlements de compte entre MNA et FLN, et puis aussi avec d'autres événements.
Bon, alors j'appelle qu'on est dans le cadre d'une émission de radio. Pour respecter le cadre horaire, il nous reste quelques minutes à peine. On va donner la parole à Léla pour terminer sur ce point. Et puis après, vous rassurez-vous, on reprendra le débat, mais dans un cadre plus
Omar,
classique.
Omar Harek, il se retrouve dans les groupes de choc de l'organisation spéciale qui est le bras armé du FLN. Et juste dire que, parce que j'ai beaucoup parlé de autonomisation, c'est vrai qu'il y a des formes d'autonomisation très tôt, etc. Je reviens pas à 41, les assos, les entraînements nord-africaines, etc. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de lien avec les centrales syndicales. Heureusement, et les partis politiques, et notamment le PC. Quand on lit les textes dans les rapports des renseignements généraux, pendant toutes les années 50, le souci des renseignements généraux et du patronat industriel, c'est la forte syndicalisation des Algériens, très proche de la CGT. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments de rupture, 48 et 56 surtout, 56 quand le PC va voter les pouvoirs spéciaux à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, il y a à la fois un mouvement nationaliste qui est très, très, très proche. Je parle des leaders, des cadres qui sont en lien étroit avec les centrales syndicales et qui co-organisent, tu l'as très bien dit, des débrayages des années 50. Il y a des débrayages en permanence dans les usines, à la CAFL tout précisément, et avec le soutien des organisations syndicales. Et puis des moments, ça frotte. Je reviens sur Imoun Amar. Il a été arrêté, il était dans le fameux fichier Z, le fichier Z. En 58, le FLN est démantelé à Saint-Étienne, avec toute son organisation pyramidale et avec tout le système des collectes de fonds, etc. Imoun est arrêté en avril 58, je crois, et il va faire 2 années de travaux forcés à Barberousse, en Algérie. Il avait épousé, comme il me disait, une bigote de la Haute-Loire, une femme française de la Haute-Loire, et qui en prenait plein la gueule, parce qu'on lui disait, mais t'es avec un bougnoule, et en plus, il est terroriste, et il est en Algérie. C'est le syndicat, c'est la CGT à la CAF, qui a subvenu aux besoins de la famille, donc de l'épouse d'Imoun Amar, et de ses enfants. Donc, je ne t'ai en aucun cas une solidarité, une proximité évidente avec les organisations syndicales, quand bien même il y avait des moments de rupture.
Bien, voilà. Donc, l'émission va continuer, mais elle sera diffusée le mois prochain pour la deuxième partie. Il va falloir qu'on conclue. Alors oui, on va parler de l'expo, rappeler qu'il y a une exposition aux archives municipales, et puis Biba va nous parler de la Biennale Trace.
Ouais, voilà, pour dire que la Biennale Trace continue jusqu'au 13 décembre, que sur la question de la mémoire de la guerre d'Algérie, il y a un colloque qui commence la semaine prochaine, de lundi à vendredi, avec tout un tas de tables rondes d'intervenants de très grande qualité, dont Dao Djerbal, qui vient spécialement d'Algérie quand même, donc... Allez-y, parce que il y aura pas 36 occasions.
De la table ronde avec Paul Max Morin, qui est un jeune docteur, qui a soutenu sa thèse l'année dernière, et c'était sur la question de la transmission de la mémoire et de l'histoire de la guerre d'Algérie. Il y aura une table ronde avec des jeunes, donc on dira la troisième génération, une fille dont les grands-parents étaient pieds noirs, plusieurs jeunes et qui produisent des choses. Et je trouve que ça va être, on a parlé de Dao Djerbal, il y a Léopold Lambert, etc. Mais il y a surtout des jeunes qui vont parler comme des jeunes et de leur production. Et donc on va interroger avec Paul Max Morin, qui est jeune aussi, ce que peut vouloir dire transmission sur un sujet sensible. Et c'est magnifique ce qu'ils produisent. Donc ça vaut le coup de participer à cette table ronde, parce qu'elle est vraiment intéressante pour nous les vieux qui avons une approche de cette histoire différente peut-être.
Donc la table ronde, c'est mardi prochain de 14h à 17h avec Paul Max Morin, Sarah Hoffman et Laura Benayoun. Sarah Hoffman, c'est une Stéphanoise qui a réalisé des podcasts, et Laura Benayoun, une photographe. Et aussi pour vous dire qu'il y a une programmation le 29 novembre. Alors ça se passe à Lyon, c'est à l'Opéra Underground, c'est gratuit. Et l'intitulé de la soirée, c'est « Les Algériens peuvent-ils parler ?» Et l'idée, c'est de parler du cinéma algérien, parce qu'il est né à peu près en même temps que l'indépendance, enfin que les velléités d'indépendance et l'indépendance, et de faire le... Du coup, c'est Nabil Djedouani qui va nous faire un petit cocktail de films du répertoire algérien. Donc c'est le 29, c'est mardi prochain. Et du coup, il y a aussi Salima Tenfish qui va intervenir, et François Cheval. Je vous laisse regarder le détail dans le programme de la Biennale Trace. Et sur l'Algérie encore, bien sûr, l'exposition aux archives municipales. Et surtout, ce week-end, c'est l'anniversaire de la revue Écart d'identité. C'est la petite sœur, ou je sais pas qui est la sœur de qui, mais de Trace. Et c'est la maman de Trace. Et du coup, Trace et Écart, c'est un anagramme. Et vous avez ici des exemplaires. Et il y a un numéro spécial Algérie, pour ceux et celles que ça intéresse, pour rester dans la question. Et un numéro spécial 30 ans. Et puis, je ne vais pas vous faire tout le programme de la Biennale Trace, mais regardez le programme. Et un dernier mot d'Alawa.
Vendredi prochain, il y a également à la médiathèque le film de Aude Fourel, qui est projeté, Pourquoi la mérite-t-elle ? Alors, il est intéressant parce qu'il y a des témoignages de femmes, notamment. On parlait de... Alors, et ce qui est intéressant, parce qu'elle est de la région, elle est de Roche-la-Molière. Elle a repris un petit peu l'histoire de son grand-père, qui était un militant aussi, qui a aidé les membres du FLN. Elle est partie sur les traces, notamment, donc elle est partie, pris le bateau à Rome, traversée en Tunisie, et puis elle a été dans les montagnes de Kabylie, recueillir des témoignages sur place. Et voilà, donc c'est ce film-là qui sera projeté jeudi prochain, à 14h.
Merci pour cette précision. Et j'allais oublier le spectacle. Enfin, c'est pas un spectacle, c'est une lecture d'un groupe de lecteurs non professionnels de la compagnie Voici Voilà, qui s'est plongé dans des textes de la conquête jusqu'en 1914. Et la lecture s'appelle Nous l'appellerons Algérie. Ça se passera à l'Amicale Chaplon. C'est le 3 ou 4 décembre. Je vous laisse vérifier dans le programme. Et sinon, www.trace-du-6, trace au pluriel-du-6, migration au pluriel.org.